L'Américaine de Jules Claresy, chapitre 1er. En juillet, à Trouville, par un beau temps clair, sous le ciel d'un bleu doux, légèrement ouaté de nuages blancs, devant la mer plate et verte, aux bords vaseux dentelés d'écume blanche, le docteur Farjas, le savant névrologiste, causait à l'ombre d'un grand parasol planté dans le sable fin. Il causait, tout en regardant de ses profonds yeux noirs des barques filées à l'horizon, un vapeur passé avec sa blanche fumée droite, et un amateur d'art qu'il était, comparant aux marines accrochées à Paris dans son cabinet, la côte violacée qui se montrait au fond très loin, plaquée de tons rosés ou jaunes, vers le cap de la Hève là-bas. Il se laissait aller, le docteur, à ses lents bavardages des jours de repos, assis entre un homme de 35 ans environ à l'air militaire, le marquis de Solis, retour du Tonkin, et descendu l'avant-veille aux roches noires, et un jeune homme coiffé du petit chapeau paillasson à large ruban qui, dans un tonneau d'osier, les jambes croisées, battait sa bottine gauche du bout de son ombrelle de toile écrue. Joli garçon, ce monsieur de Bernières, un peu cousin du marquis de Solis, mais aussi spirituellement flâneur, railleur, décadent ou pessimiste selon la mode, que Georges de Solis était, avec 10 années de plus sur les épaules, enthousiaste, crédule, courant la mode à la conquête de quelques vérités scientifiques, et que Farjas lui-même restait ardent et alerte sous ses longs cheveux gris, encadrant son visage maigre. Il s'était, après le déjeuner, rencontré et assis machinalement sur la plage, dans le farniente délicieux de la vie des eaux, le docteur descendant de sa villa bâtie dans le nid de verdure de la Côte de Grâce, Bernières et M. de Solis sortant du même hôtel où ils se retrouvaient sans s'y être donné rendez-vous. Farjas avait jadis soigné la marquise de Solis et donnait de temps à autre des conseils hygiéniques à M. de Bernières qui ne les suivait pas. Un ami de tous ses clients, le bon docteur, y appliquant à ses faux malades, simplement anémiés ou rendus dyspepsiques par la vie de Paris, une méthode curative à lui, la causerie, le laisser passer, le haussement d'épaule et le « bah, ce n'est rien, vous en verrez toujours la fin ». « Eh bien, docteur, et vos malades ?» lui demandait justement Bernières, en continuant à frapper de son ombrelle sa cheville qui faisait saillie sous le caoutchouc de la bottine. « Mes malades, tous bien portants. » Et le docteur ajouta, en riant, « Je les visite si peu. » « Vous seul avez le droit de parler ainsi, de ce piton railleur, de votre science, cher docteur, » dit M. de Solis, avec un évident respect, une sorte de reconnaissance affectueuse. « Vous, un des maîtres en l'art de guérir. »« Oh, un des maîtres !» Le savant hochait la tête. « La vérité est que je suis peut-être parmi les médecins un des moins malfaisants. » Bernières sourit, et son ombrelle battit plus vite, comme pour applaudir. « Malfaisant et joli. Un banc pour malfaisant. »« Non, mais, » dit Farjas, « je suis sceptique en médecine. Voilà ma force. J'ai remarqué qu'à tout prendre, il n'y a jamais de maladie réelle que celle que l'on croit avoir. Quand l'homme est réellement en danger, il se figure qu'il n'a rien de grave. Cette ignorance de son mal le rassure et il en guérit malgré le médecin. L'homme ou la femme est-il malade imaginaire ? Comme à tout propos le médecin est consulté, alors, ah, alors ça devient dangereux. Il n'y a donc, à votre avis, demanda M. de Solis, que les maladies qu'on croit avoir ? Évidemment, comme il n'y a que les passions qu'on se figure éprouver. Le jeune Bernières, après avoir applaudi, se mit à protester. Oh, qu'on se figure, dit-il. Le docteur Farjas l'interrompit et, regardant ce joli garçon blond, frisé, avec une mince moustache finement retroussée sur des lèvres un peu pâles, et un monocle crispant comme une hémiplégie, tout un côté de sa face, tandis que l'autre restait calme avec un petit œil bleu perçant. « Mais parfaitement, » dit le médecin. « Voyons, tenez, quel âge avez-vous ? 28 ans. »« Et à 28 ans, vous croyez avoir eu des passions ?»« Beaucoup, » dit Bernières. « Êtes-vous joueur ?»« Peu, bibliophile, médiocrement. » Je coupe les volumes avec mes doigts, ainsi. Avare, je vous demande pardon. Papa me trouve prodigue, répondit Bernières, mais la petite Émilienne. Émilienne Delannoy, non, elle, tout le contraire. Non, je ne suis pas avare. Alors vous n'avez pas de passion. dit Farjas. Ni les chevaux, ni les jeux, ni les femmes, pas même la petite Émilienne des bouffes. Pas même Émilienne Delannoy, ne sont des passions. Des occupations, oui, des délassements, soit. Fit le jeune homme, l'air profondément ennuyé, revenu de tout. Des délassements, quelquefois. Rarement, je le sais bien, accentua le docteur. Mais des passions, non. Vous voyez bien vous-même, vous dites Une passion, mais cela vous prend corps et âme, vous tient, vous tord, vous absorbe, vous tue lentement et pourtant vous fait vivre. J'ai connu deux hommes seulement qui avaient eu ce qu'on appelle une passion, mais une vraie, une absolue passion. L'un était un brave garçon qui cherchait le moyen d'abolir la misère. Il est mort fou. L'autre était un vieux sculpteur raté qui passa sa vie à sculpter des noix de coco, certain de tailler là-dedans un chef-d'œuvre. Il est mort idiot. Et ce n'est pas plus bête de s'affoler pour un beau rêve ou de s'abrutir sur un pareil travail que de perdre sa vie pour une femme. Bernier écoutait Farjas en souriant, comme il eût prêté l'oreille à un air de bravoure ou à une conférence, mais il n'en semblait pas fort ému. Il répondit de sa voix lente et lassée. « Mon cousin Solis est cependant là, docteur, pour vous prouver qu'il peut y avoir d'autres passions que celle des noix de coco. Comment ? Dame, une noble passion, celle des voyages. Et vous voyez bien que M. de Solis ne l'éprouvait pas complètement, entièrement, jusqu'à en mourir, la passion des voyages, puisqu'il en est revenu. C'est qu'on se lasse de tout, docteur, répondit le marquis de Solis, qui, machinalement, traçait sur le sable de la plage une carte quelconque, chimérique sans doute. Le docteur Farjas eut presque un éclat de rire triomphant. On se lasse de tout, voilà. Eh bien, mais je ne dis pas autre chose, moi. Alors, à votre avis, demanda le marquis, l'amour? Oh, je n'y crois pas, fit Bernière. J'y crois, moi, au contraire, dit Farjas. J'y crois, comme à la médecine. Je crois au fait. À l'amour de la femme pour le mari qui la rend heureuse, du mari pour la femme qui le rend fier, de la mère et du père pour l'enfant. Je crois à tous les amours accompagnés d'un qualificatif. Amour conjugal, filial, paternel, ce que vous voudrez. Je crois à l'amour-propre, surtout. Mais je ne crois pas à l'amour sans épithète. Cet amour-là n'est qu'un farceur. Il prétend qu'il n'a que des ailes. Allons donc, il a des pattes et des griffes. C'est-à-dire, fit M. de Solis, qu'à ramener votre théorie à la pratique, il n'y a pour tout homme d'autre passion que celle de son foyer et d'autre salut que le mariage. Voilà, répéta Farjas joyeusement. M. de Bernière crut bien embarrasser le médecin. Alors, docteur, pourquoi n'êtes-vous pas marié, vous ?
Moi, parce que j'avais une passion.
La science ?
Parfaitement.
Vous n'y croyez pas, dit le jeune homme. Farjas haussait les épaules. Il y a tant d'imbéciles qui croient tout savoir sans avoir rien appris. On n'a pas trop de toute une existence de travail pour arriver à se convaincre qu'on ne sait rien. Et puis quoi ? Je n'ai pas trouvé la femme qui... La femme... Ah ! Je vous y prends. Vous cherchez l'amour.
Ou l'intérêt.
À vous, l'intérêt, jamais de la vie. Le marquis de Solis, pendant ce bavardage léger, regardait sans les voir les pêcheuses des quilles, rapportant de la mer leur pelle à la main, ces longs poissons d'argent à tête de brochet qui cachent leur tête dans le sable, et les pêcheurs de crevettes rentrant leur filet sur l'épaule, tandis que d'autres revenaient, se suivant, leur panier à l'épaule, comme une longue et lente théorie de travailleurs. Il regardait, mais sa pensée était ailleurs. Tout ce qui se disait là, près de lui, semblait réveiller en lui des souvenirs, des sensations endormies, galvanisées des douleurs mortes, et son visage fin, un peu triste, maigre et pâli, avec un front légèrement dégarni et une barbe noire en pointe, ce visage de soldat pensif prenait doucement une expression de rêverie triste. À cette songerie même, le marquis parut s'arracher pour demander au docteur. « Vous êtes donc d'avis qu'il y a toujours pour l'homme une femme idéale, faite pour lui et qui présente l'incarnation même, la réalisation de son rêve ?»«
Et je suis d'avis que pour tout homme, il y en a même plusieurs, » répondit gaiement Farjas.
« Bon, mais pour les femmes, » dit Bernière.
« Oh, pour les femmes, » demandait Émilienne Delannoy.
« Demandez même à Mrs. Montgomery, qui est une honnête femme et qui a pourtant déjà changé d'idéal. »
Madame Montgomery. » Et Bernière semblait attendre du docteur Farjas une explication.
« Comment, docteur, la belle Madame Montgomery a changé, comme cela ?»«
Oh, légalement. Divorcée, la belle Madame Montgomery. »
« Mais, mon cher Bernière, aussi honnête que peut l'être une femme. »«
Qui n'aime pas son mari. »
« Pourquoi Madame Montgomery n'aimerait-elle pas son mari ?»«
Parce qu'il n'a rien de l'idéal, parbleu. »«
Ça dépend, on ne sait pas, »
fit gravement le médecin.
« Eh bien, si M. Montgomery, qui est courtois et pâteux, est l'idéal de Madame Montgomery, qui en effet est admirablement belle, belle à sculpter, à chanter, à peindre, tant pis pour nous, qui n'avons plus qu'à nous désespérer, ou à nous consoler avec Émilienne Delannoy. » Fanny Richard ou Marianne Dozier. Les débits de consolation ne manquent pas. C'est comme les débits d'alcool, ça pullule.
Et, demanda M. de Solis, cette belle Madame Montgomery, c'est...
Une admirable et capiteuse créature, répondit Bernière.
Américaine, comme toutes les femmes qui fournissent des épithètes de parfumeurs aux chroniques.
Et depuis la saison, mettant Trouville en révolution.
En ébullition, si vous voulez.
Il n'y a sur le turf de la beauté, vous voyez que je suis moderniste, de comparable à elle que la très belle Miss Arabella Dixon.
Ah, qui est incomparable, celle-là.
À l'heure du bain de Miss Arabella, on frette des barques à Deauville pour aller regarder ses bras et lorgner sa nuque. Les voitures font prime à ce moment psychologique-là.
C'est très beau, d'ailleurs. Ça mérite d'être vu.
Et cette Mademoiselle Dixon ? Demanda encore Solis.
La fille d'un colonel.
Très bel homme, n'ayant pas l'air de badiner.
Un Yankee, un Mohican, un type.
Il paraît qu'il a joué du revolver à la tête de quelques cow-boys contre les Indiens, comme Buffalo Bill. Je l'ai rencontré l'autre jour devant les petits chevaux au casino. On faisait cercle autour du trio Dixon, car il y a une mère.
Très belle aussi.
Ils sont tous très beaux, ces Dixon.
D'ailleurs...
Et Bernière s'étalait avec une nonchalance affectée dans son tonneau d'osier. Toute cette race américaine humilie effroyablement nos décadences. Nous avons l'air d'anémier, comme dit le docteur, à côté de ces colosses en pierre de taille. Voyez, monsieur Norton.
Norton ?
Fit monsieur de Solis.
Le nom brusquement lui faisait retourner la tête et il interrogeait Bernière pour savoir de quel Norton son cousin pouvait bien parler.
Mais de M. Norton, le richissime Norton, le milliardaire.
Pour être plus récent, plus actuel.
Richard Hepworth Norton, le banquier, qui a acheté l'hôtel de la Duchesse d'Escars au parc Monceau, et y a logé pour 7 ou 8 millions de peintures, sans compter les téléphones.
Richard Norton. Ce nom, évidemment, réveillait chez le marquis tout un monde de souvenirs.
Il l'avait autrefois bien connu, ce Norton, à New York. Et il le retrouvait à présent sur cette plage normande, après quelle séparation et quelle traverse.
« Il est ici, Norton ?»«
Là-bas, » dit Farjas.
« Son habitation est cette grande maison normande, une des dernières vers les Roches Noires. On la voit d'ici. »
Le marquis regardait non plus vers la mer maintenant, mais du côté de cette longue ligne de constructions diverses, élégantes ou bizarres, qui, comme des yeux avides de lumière et d'air, ouvrent leurs fenêtres sur la mer.
Là-bas, voyez-vous, un vrai palais, cette villa.
M. Norton y entassait encore des raretés à profusion. Ce serait un musée à Paris. À Trouville, c'est une véritable curiosité. Mais rien n'est assez luxueux et choisi, aux yeux de M. Norton, pour sa femme qu'il adore et qui est bien, du reste, la créature la plus exquise que je connaisse. Le docteur ne remarquait point l'expression de vague tristesse qui passait rapidement sur le visage de M. de Solis. Le marquis avait eu, au nom de Mme Norton, un tressaillement léger, une contraction passagère qui n'eût pas évidemment échappé à Farjas. Mais le médecin, les yeux mi-clos, regardait en ce moment le paysage comme à travers ses cils pour juger de la qualité de la lumière. M. Solis avait d'ailleurs pris bien vite une sorte d'expression indifférente, et il interrogeait le docteur sur Mme Norton, comme l'eût fait un simple curieux des potinières de la plage. Le docteur connaissait d'autant mieux l'Américaine qu'il la soignait, Mme Norton souffrant d'une maladie qu'on croyait à New York indéterminée, une névrose,
la fameuse, l'inévitable névrose moderne, mais que le maître français devinait bien vite, le germe d'une affection cardiaque, une angoisse ressemblant à l'angine de poitrine, au total un pseudonyme de la tristesse. La mort de son père, qu'elle adorait, avait atteint profondément la jeune femme, et pour l'arracher à une sorte de mélancolie constante, un chagrin qui persistait sous le sourire même de la mondaine, Richard Norton avait amené Madame Norton en France. « Alors, triste, Madame Norton ?» demandait M. de Solis. « Oui, et résigné. »« Et adorable !» ajouta M. de Bernière. « Des cheveux étonnants, châtain clair, couleur bronze, et des yeux. Tenez, la mer a de ces reflets-là, regardez bien. » « Seulement, dit le docteur Farjas, cette poétique et délicieuse créature a, dans la traversée, failli payer cher la consultation qu'on venait me demander. Le vent, les rafales, la dépression barométrique amenaient chez elle comme un arrêt dans le battement du cœur, comme une pause de la vie. Phénomène fugitif du reste et qui disparaîtront radicalement avec du repos. Puis, après avoir questionné, il semblait que M. de Solis cherchât à ne plus parler de l'américaine. Il restait là, le regard croché à la grande maison normande, là-bas, et il parlait d'autre chose, de ses voyages, de cet Annam ou du Tonkin dont il revenait. « Madame de Solis a dû être bien heureuse de vous revoir, » dit le docteur. « Ma mère. » « Pauvre chère femme. » « Je me suis presque reproché de l'avoir quittée tant elle a eu de joie à me retrouver. » « Que je vous sais gré, mon cher docteur, de me l'avoir rendu. »« Rendu, rendu, mon cher marquis, on ne rend pas les malades qui sont confisqués par la mort. Je n'ai eu d'autre mérite que d'avoir donné à la marquise de bons conseils qu'elle a suivis. Elle a plus fait pour sa guérison que moi. Quand je vous dis que je doute un peu de la médecine, je ne doute pas de la suggestion qu'imposent les médecins à leurs malades, et qui, par l'imagination, suffit très souvent à les guérir. J'ai fait des cures étonnantes en ordonnant, avec de graves froncements de sourcils, des pilules de mica panis. Mica panis. Les malades avalaient cela avec des frissons d'inquiétude et d'espérance, puis ils se sentaient soulagés. Mica panis. Traduction, boulette de mie de pain. Ah, le cerveau humain, l'imagination, la chimère. Et la conversation s'égarait maintenant sur les généralités, la médecine, les nouvelles du matin, l'article de la vie parisienne consacré aux épaules et aux costumes de bain de Miss Arabella Dixon. C'était M. de Bernière qui parlait, et M. de Solis n'écoutait plus. Toute sa pensée était comme emportée vers cette villa qui se dressait, au bout de la plage ensoleillée, dans la lumière, avec ses toits rouges. Et tout à coup, presque brusquement, il laissait son cousin et le docteur en tête à tête, leur serrant la main, prétextant une lettre oubliée, une dépêche à jeter au télégraphe, et il s'éloignait, disparaissant par la rue. Le docteur, regardant sa montre, n'allait point tarder à en faire autant, et Bernière se trouvait seul dans son tonneau, fumant un cigare, qu'en sa qualité de pessimiste il exigeait délicieux, comme toute chose, car il citait Schopenhauer et pratiquait Épicure. Fin observateur, du reste, l'espèce de trouble de M. de Solis ne lui avait pas tout à fait échappé, et il se demandait pourquoi le marquis lui faussait si vivement compagnie. Solis ne lui avait point parlé de cette lettre. Ils devaient monter à cheval ensemble tout à l'heure. Comment le marquis l'oubliait-il? Alors, l'insistance de Solis à s'informer de la santé de Madame Norton, l'évident intérêt que prenait le marquis à ce que le docteur lui disait de l'américaine, donnait à Bernière de fugitives idées de romans ébauchés, d'une intrigue possible. Tiens, 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 ce bon Solis! Mais la pensée même s'envolait, dans le plein air de ce beau jour, avec la petite fumée bleue du cigare. Et Bernière oublia bien vite son cousin en apercevant, venant de son côté, sans ombrelle, les mains dans les poches, et humant le vent de mer avec la volupté d'un être bien portant qui aime à vivre, un homme gros et gras, très rond, très rouge, les cheveux et les favoris grisonnants, qui s'avançait vers lui sans le voir. « Tiens, monsieur Montgomery !» C'était bien lui, le mari de la belle madame Montgomery, l'homme le plus entouré, le plus envié, le plus jalousé de la plage, et portant philosophiquement le poids de la beauté de sa femme.
« Ah, monsieur de Bernière, » dit le gros petit homme en souriant. « Eh bien, qu'est-ce que vous faites là, Schopenhauer ? Vous digérez, je parie.
Mais désenchanté que vous êtes, est-ce que vous ne devriez pas vous laisser mourir d'inanition si la vie est une corvée ?»«
Une corvée, oui, mais curieuse, »
dit Bernière en jetant son cigare inachevé. « Un spectacle souvent assommant, mais un spectacle.
Vous êtes bien quelquefois entré dans un théâtre où l'on joue une mauvaise pièce. »«
Souvent, » dit l'Américain avec un grain d'accent saxon. Il s'était assis près de Bernière sur une chaise dont les pieds s'enfonçaient dans le sable.
« Elle dure, cette pièce ennuyeuse, et l'on voudrait s'en aller.
Mais on reste, » fit monsieur de Bernière. « On reste, on ne sait pas pourquoi. »
« Parce qu'on y est. Parce que, pour sortir, on ne veut déranger personne. Voilà la vie, mon cher monsieur Montgomery. »
« Oh, il y a bien quelques petits agréments autour. Vous avez du reste raison, rien n'est assommant comme une comédie maussade. »
« On nous en a joué une hier au casino. »
« Terrible. Et quels acteurs ? »
« Il y avait là une comédienne qu'on nous donnait pour un premier prix du conservatoire. »
« En quelle année, bon Dieu ?»
Peut-être du temps de Talma. Et je suis resté.
À cause de ma femme, qui ne veut jamais s'en aller, qui veut toujours tout voir, qui n'est pas pessimiste, elle. Ah non, par exemple, tout l'amuse. Tout, même moi.
Ah bah, fit Bernière.
Merci,
dit rapidement l'Américain.
Monsieur de Bernière essaie de corriger son ah bah.
Je voulais dire.
Oh, n'expliquez pas, fit Montgomery avec un flegme aimable.
Cela vous étonne?
Cela m'étonne moi-même d'être le mari de la plus jolie femme de la colonie américaine.
Une beauté professionnelle.
Oui, professional beauty. J'ai retenu de l'anglais de mon professeur tout ce qui est devenu parisien.
Mais, ajouta le jeune homme, il ne faut pas traduire.
Monsieur Montgomery sourit, acceptant la plaisanterie du boulevardier.
Je comprends, oui, qui fait profession de beauté. À Paris, on s'y tromperait.
Il ajouta froidement, dans son petit sourire singulier.
« Mais on ne s'y tromperait pas longtemps. »«
Très aimable, Mme Montgomery, très aimable, hors de chez elle. »«
L'autre jour,
Papillonne,
oui, Papillonne, du Figaro,
a eu l'idée de raconter l'histoire de notre mariage. Très poétique, cette histoire. »«
Vraiment ?»
fit M. de Bernière.
Montgomery s'inclina dans un léger salut.
« Merci encore. »
Puis, comme le jeune homme, évidemment, voulait tenter encore de rattraper son exclamation envolée.
« Oh, n'expliquez pas, » répétait l'Américain, divorcé d'avec un premier mari.
« Madame Montgomery ?
Oui.
Vous n'avez donc pas lu, Papillonne ?
Je suis son second, et prise de moi à cause de mon Dieu, à cause de mon nom.
C'est juste,
Montgomery, »
dit M. de Bernière en faisant sonner le nom historique.
Mais Montgomery l'interrompit encore.
« Oh, n'insistez pas. Il y a deux M en français.
Montgomery.
Un seul à mon nom. C'est ce qui ennuie un peu, Madame Montgomery.
Vous pouvez vous en refaire mettre un.
Un M et un 2.
J'ai songé, mais ça se verrait.
Oh, dit le jeune homme en riant, ça se voit tous les jours.
Norton se moquerait de moi.
Ah oui, Monsieur Norton.
Je regrette que mon cousin Solis ne soit plus là pour parler de Monsieur Norton.
Il y a longtemps que l'on n'a pas parlé de Monsieur Norton.
« Vous le connaissez, Monsieur Norton ?»
dit Montgomery.
« Très peu.
Comme on connaît les étrangers à Paris.
Je vous ai vu chez lui à la dernière soirée qu'il a donnée au Parc Monceau.
C'était la première fois que j'y allais.
Superbe, l'inauguration de son hôtel. Un luxe et un goût. La serre, surtout. Étonnante, la serre. Un bijou parisien vu à la lumière Edison. Seulement, on n'y parle pas assez français. J'y ai vu des Turcs, des Persans, des Américains. » Mais des Parisiens, j'en cherchais. Le plus parisien, c'était encore un Japonais, ou un Javanais, je ne sais pas au juste.
Ah, ça, mon cher monsieur Montgomery.
Il y a un autre Norton, qui vient d'acheter un maisonnier de 800 000 francs à Philadelphie.
C'est le faux Norton.
Comment, le faux Norton ?
Oui.
Comme je suis un Montgomery avec deux M. Le vrai Norton, c'est mon Norton à moi. Richard Hepworth Norton. Le propriétaire des mines de cuivre les plus fameuses et le rival des plus hardis entrepreneurs pour la construction des chemins de fer.
Norton le riche,
comme on l'appelle pour le différencier de Norton, le pauvre, qui n'a que 20 millions. Oh, le malheureux.
Durant,
ajouta Montgomery froidement. Alors, dit Bernière, Richard Norton.
Oui, Richard Norton. Richissime, lui.
C'est juste, fit le Parisien. Riche est maintenant un minimum. Pour avoir le strict nécessaire, il faut être
richissime.
Parfaitement. C'est notre monde américain qui a inventé ces superlatifs. Et en route pour l'énorme, l'excessif, le gigantesque. Nous ne pouvons vivre, cher monsieur, comme votre vieille Europe, sur une mode de terre usée et avec les 4 sous qui suffisaient autrefois à nos pères. Qui n'est pas trop riche maintenant ne l'est pas assez. Qui n'a pas d'indigestion n'a pas dîné. Qui n'est pas fou d'amour n'a pas aimé.
Je comprends, dit Bernière en ouvrant son ombrelle. Vous ne voulez pas vivre comme des épiciers.
L'Américain hochait la tête avec un petit rire railleur.
Oh, cher monsieur, prenez garde, prenez garde. Avec un Américain, il ne faut jamais railler l'État qui semble le plus ridicule pour vos préjugés français, parce que l'ambassadeur ou le président des États-Unis peut précisément l'avoir exercé.
L'homme qui vous parle a fait sa fortune dans un comptoir d'épicerie.
Un Montgomery?
Oui.
Ma femme voudrait bien l'oublier, mais je ne rougis pas du tout, moi, de m'en souvenir.
Et vous avez bien raison. Cependant, votre associé, M. Norton, ce n'est pas avec des pruneaux qu'il a gagné cette maison normande, les collections qu'il y loge et son hôtel de Paris, l'étonnement des invités, le joyau du parc Monceau.
C'est peut-être avec des pruneaux qu'il a gagné tout cela.
Je ne le lui ai pas demandé, répondit froidement Montgomery. Du reste, nous ne demandons jamais d'où vient une grande fortune et une jolie femme. Nous saluons l'une et nous respectons l'autre.
C'est la femme que vous respectez ?
Demanda en riant M. de Bernière, qui s'est élevé, trouvant décidément le soleil trop chaud.
Oh, les deux, dit l'Américain, les deux.
Même lorsqu'il s'agit de Miss Dixon.
Ce que tout le monde en parle.
Ah, la jolie créature. Elle serait capable de rendre à Deauville son ancienne splendeur.
C'est vrai.
Trouville d'un côté, Miss Dixon de l'autre.
Je parie pour Miss Dixon.
Superbe, Miss Dixon.
L'autre jour, à cheval, sur la plage, elle était à peindre. Un portrait de Carolus équestre.
À propos de portrait, monsieur de Bernière, demanda l'Américain, pour le prochain salon, avez-vous un peintre à me recommander, vous qui êtes un raffiné?
Mais un peintre de choix, et qui réussirait, madame Montgomery?
Qui réussirait, madame Montgomery? Répéta Bernière. Et à travers son monocle, il regardait le petit gros homme, tout enchanté de sa question. Il le regardait avec un léger, très léger sourire narquois.
C'est Marie.
Qui réussirait, madame Montgomery? Mais, cher monsieur, vous avez justement un de vos compatriotes, un peintre américain très à la mode, tout à fait à la mode, depuis son fameux portrait de la femme dans le goût de Whistler. L'auteur de La femme en noir, Edward Harrison.
Le calme visage un peu paterne de Montgomery s'était glacé brusquement.
Harrison? Impossible.
Pourquoi?
C'est le premier mari de ma femme.
Ah, bah,
fit M. de Bernière.
Il avait envie d'ajouter, raison de plus, il la connaît mieux.
Mais cette riposte de sceptique lui resta sur les lèvres.
Il s'étonna seulement que la belle Mme Montgomery n'eût pas eu le bon goût de commencer par choisir le mari actuel et ne fût pas arrivée à M. Montgomery par le plus court chemin. Mais après tout, une femme a le droit de se tromper.
Le divorce est fait pour cela, dit Montgomery froidement. Le mariage sans le divorce, c'est une geôle.
Et avec le divorce, c'est la geôle tempérée par l'évasion.
Pas autre chose.
Eh bien, cher monsieur, je félicite Madame Montgomery de s'être évadée, et je vous félicite d'avoir profité de l'évasion.
Venez vous faire un tour aux petits chevaux.
Volontiers, cela m'amuse de regarder jouer.
Et le jeu?
Oh, dit l'Américain, je ne joue jamais, jamais. L'argent perdu au jeu, c'est comme le pain jeté, un bol fait à ceux qui n'en ont pas.
Bernière se demandait, en écoutant Montgomery, si l'Américain n'émettait point son axiome pour produire un effet, et par une pause quelconque.
Non, point du tout. Le travailleur enrichi était de bonne foi, n'estimant que l'emploi utile de l'argent vaillamment gagné.
Et tout en allant doucement vers le casino, en suivant les planches, sous un soleil qui là-bas faisait étinceler la mer. Le jeune homme continuait sa causerie et questionnait encore. Notez que je ne suis pas avare, disait Montgomery. Je conçois qu'on jette les louis par les fenêtres, mais qu'on se les fasse racler par le râteau d'un croupier, je trouve cela absurde.
Bah, le jeu est une sensation comme une autre, fit Bernière.
Et il y en a si peu, si peu.
Vous trouvez? Vous êtes bien heureux.
Pas du tout, je m'ennuie considérablement.
Mariez-vous?
À quoi bon?
Mesdames, fit l'Américain, ne fût-ce que pour avoir des enfants.
Pouh! La vie est un si petit cadeau à leur faire.
Et puis on est sûr d'avoir une femme, on n'est pas certain d'avoir des enfants.
Vous n'en avez pas.
Pardon, dit en riant M. Montgomery.
J'ai une femme et qui est mon enfant gâté.
Nous ne nous comprenons point, cher monsieur, dit Bernière au seuil du casino. Vous êtes un homme d'action, moi un homme de doute.
Mieux que ça, je crois, un déliquescent.
Si vous voulez. Nous sommes tous un peu ainsi, en cette fin de 19e.
Tous?
Tous ceux qui pensent.
Qui ne pensent qu'à eux.
Cher monsieur Montgomery, je voudrais bien savoir où sont les gens qui songent spécialement aux autres.
Vous me citerez Saint-Vincent de Paul, il est mort.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu parent de monsieur de Solis?
Je suis son cousin.
Est-ce qu'il pensait même à lui en allant, Tonquin, faire des observations sur le climat de ce diable de pays?
Non.
Est-ce qu'il se piquait d'être un décadent?
Non.
Mais vous me parlez d'une exception.
C'est une exception, mon cousin, un héros.
Oui, ma parole, elle confirme les règles, les exceptions.
Eh, cher monsieur,
l'ambition de tout homme qui n'est pas un imbécile, c'est d'être une exception.
Ah, si j'étais jeune, et si j'étais français.
Eh bien?
Eh bien, rien. Les affaires de votre pays ne me regardent pas.
Allons voir les petits chevaux.
Passez, passez, cher monsieur.
Non pas, je vous prie, après vous.
Après vous.
Eh bien, dit Bernière en prenant le bras de l'Américain, mon cher monsieur Montgomery, passons ensemble.